Bondiblog Café.
www.bondiblogcentre.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondiblog Centre Café. Nous allons revenir aujourd'hui sur la chaîne humaine des solidarités, une chaîne solidaire et distanciée en faveur des sans-papiers. Elle s'est déroulée samedi dernier, le 30 mai, l'après-midi à Orléans, tout en respectant les gestes barrières avec une distance de 1,50 m entre chaque manifestant. Les 160 manifestants ont revendiqué un toit, une école, des papiers pour les mineurs isolés, des papiers pour toutes et tous, fermer les CRA. Mais qu'est-ce qu'un CRA ? Un CRA est un centre de rétention administrative. Alors il ne relève pas de l'administration pénitentiaire, ce sont des policiers qui sont chargés de surveiller les personnes enfermées en attente de régularisation. Un centre de rétention administrative devrait ouvrir en 2023 à Olivet. C'est Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé fin 2019. Voilà, ce sera à Olivet. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce centre de rétention ? Ben, il sera rue de Châteauroux, à Olivet, dans la métropole d'Orléans, en lisière du campus d'Orléans, du campus de la Source. Voilà. Et il aura 90 places destinées aux étrangers en instance d'expulsion. Alors, les centres de rétention administrative sont les lieux de privation de liberté qui répondent à des normes très précises. Il faut qu'il y ait au moins 10 mètres carrés par personne, un point téléphonique à partir de, enfin, pour les 50 personnes présentes. Voilà. Et donc, ce sont des lieux de privation de liberté, des prisons qui ne disent pas leur nom en quelque sorte, puisque je vous le rappelle, ils ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ces centres de rétention administrative ont souvent été épinglés par le défenseur des droits de l'homme, car des enfants, je vous le dis, des enfants y sont enfermés. C'est le cas en France, mais également à Mayotte, où il y a également ces fameux CRA, des centres de rétention administrative. Alors, cette chaîne humaine des solidarités s'inscrit dans un grand mouvement national de revendication de chaîne humaine des solidarités, comme ça a pu être le cas à Paris, où plusieurs centaines, voire des milliers de personnes se sont rassemblées dans une ambiance très respectueuse. Aucune dégradation n'est à déplorer, malgré des gazages par les forces de l'ordre. Voilà, nous allons nous pencher sur cette problématique quand même qui touche les étrangers. Nous en avions déjà parlé dans le Bondiblog Centre, notamment à propos de Tcherno Ibrahimba, un jeune, qui est en attente d'expulsion et dont le parrain subit des pressions de la part de la préfecture, notamment parce que il a hébergé Tcherno pendant le confinement. Il n'était pas seul. Il l'a hébergé avec d'autres personnes et donc c'est une sorte de délit d'hébergement solidaire. Après le délit de solidarité, voilà, le délit d'hébergement solidaire. Cette situation est très complexe. C'est une atteinte à la liberté de se mouvoir, de se déplacer ici en France, le pays des droits de l'homme. Alors c'est un peu facile, excusez-moi. Tout de même, quand même, la liberté de circuler est un droit fondamental, d'autant plus que ces personnes n'ont commis aucun délit. Je le rappelle, ce n'est pas un lieu de privation de liberté comme pour les prisons. C'est parce que ces personnes, en attente d'être jugées, doivent patienter jusqu'à 90 jours. 90 jours, et oui. Donc avant le 10 septembre 2018, le délai était de 30 jours, donc 48 heures de garde à vue plus 28 jours. Et il pouvait y avoir 15 jours supplémentaires à la demande de la préfecture, ce qui nous amenait à 30 plus 15, 45. Et depuis la loi du 10 septembre 2018, dite asile et immigration, cette durée maximale a été portée de 45 à 90 jours, soit 3 mois. Voilà, nous allons contacter dans quelques instants Théo Roumier, syndicaliste à Sud Éducation Loiret, qui était présent à la manifestation pour lui poser quelques questions. Bonjour Théo. Alors, je te présente, tu es syndicaliste à Sud Éducation Loiret, tu étais présent samedi dernier à la manifestation de la chaîne humaine des solidarités organisée par, entre autres, par le COGI 45, RESF, la CGT, il y avait la CIMAD également, je crois.
Oui.
Voilà. Comment s'est passée la manifestation ?
Elle s'est déroulée le 30 mai et c'est pas tout à fait un hasard, c'est-à-dire qu'on a choisi cette date
parce que c'était une journée nationale de mobilisation autour de la situation faite aux sans-papiers, hein, appelée par un collectif national qui s'appelle la Marche des Solidarités. À Paris, la manifestation a été interdite, justement. Elle s'est déroulée malgré tout, hein, plus de 5000 personnes se sont rassemblées et ont défilé dans les rues en étant masqués. Nous, on avait choisi également d'avoir une initiative qui respecte les gestes sanitaires, hein, donc c'est-à-dire que on demandait à tout le monde de porter un masque et de se tenir à 1,5 mètre, 2 mètres de distance les uns les unes des autres, hein, dans une longue chaîne qui partait place de la République à Orléans. Le but, c'était aussi de montrer que il y avait aucune raison aujourd'hui d'interdire, de museler l'action collective, hein, parce que si tout est permis, si on peut aller au Carrefour Place d'Arc, si on peut prendre le train, prendre les transports en commun, retourner au travail d'ailleurs, hein, aussi pour ceux qui n'étaient pas, qui étaient confinés chez eux et qui étaient en travail à distance, il y a une chose qu'on ne peut toujours pas faire, c'est les rassemblements de plus de 10 personnes. Ben nous, on voulait montrer qu'on était capable, de manière responsable, d'organiser une action collective de solidarité de plus de 10 personnes et en respectant les gestes sanitaires. Et c'est ce qu'on a fait et ça s'est très très bien passé. On était 160 à cette chaîne humaine des solidarités qui s'est étendue donc sur plus de 300 mètres pour dire notre solidarité avec les sans-papiers, les étrangers, les étrangères.
Alors, je n'ai jamais douté de la responsabilité des citoyens français, notamment en cette période de crise où ils ont tous bien sagement respecté le confinement. Comment expliques-tu que vous, à Orléans, vous ayez eu l'autorisation de la préfecture et non pas à Paris? Vous avez vraiment avancé justement la mise en place de ces gestes barrières pour obtenir l'autorisation de ce rassemblement de plus de 10 personnes quand même?
Alors, en fait, on n'a pas eu d'autorisation à strictement parler. Nous, on a fait ce qu'on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire que on a prévenu la préfecture de l'initiative qu'on prenait. On a, pour nous, distingué ça d'un rassemblement, parce qu'un rassemblement, c'est plusieurs personnes au même endroit de manière statique. Là, c'était pas le cas, hein, c'était une succession individuelle de personnes. Très honnêtement, ce qu'on a fait, c'est pas pire du tout que ce qu'on voyait à Orléans, rue de la République, avec les gens qui marchaient. Voilà, donc il y avait pour nous aucune raison de l'interdire. Et en fait, on a tout simplement pas eu de réponse de la préfecture. Hein, donc voilà, c'est-à-dire que on n'avait pas à attendre l'autorisation de la préfecture. On allait faire ce qu'on avait à faire. On aurait, s'il y avait une interdiction, on en aurait rediscuté avec l'ensemble des organisations participantes. Hein. Tu en as cité quelques-unes, hein, la CGT, le COVI, mais il y avait aussi l'Union syndicale solidaire, ATAC, des organisations comme le PCF, le NPA, l'Union communiste libertaire, etc. Donc, on aurait évidemment discuté avec tout le monde, hein, voilà, de l'initiative qu'on prenait, puisque c'était bien une initiative collective.
D'accord. Pas d'intimidation policière durant la manifestation?
Non, on a vu passer quelques camions de police, quelques véhicules de JPIRAC, mais rien, pas un mot. Voilà. Donc, pour nous, tout s'est très bien passé, y compris vis-à-vis de la population. Et ça, c'était aussi quelque chose d'important, hein, puisqu'en fait, la chaîne humaine, comme elle s'est étendue sur 300 mètres de la place de la République jusqu'à la préfecture, en fait, elle a occupé toute la partie haute de la rue Jeanne d'Arc, qui était une rue quand même passante, un samedi après-midi. Il y a pas mal de monde qui passait en voiture, qui s'arrêtait, qui baissait la vitre pour demander ce qu'on était, ce qu'on faisait, pourquoi on était là. Donc on avait des pancartes avec nos revendications, hein, fermer les CRA, des papiers pour toutes et tous, soutien à Charnot et Nicolas, voilà, et tout ça, c'était des choses qui permettaient d'amorcer la discussion, et vraiment, il n'y a pas eu de personnes qui nous ont dit ce que vous faites c'est n'importe quoi. Les gens, ils étaient plutôt réceptifs à ce qu'on disait, ils comprenaient le sens de notre action collective. Et la distanciation, on l'avait rendue visible en plus avec des rubans de rubalise, hein, ces bandes de pour travaux, la rouge et blanche rayée, qu'on avait prédécoupées d'1,50 m, et les personnes qui participaient à l'initiative le tenaient chacun sa lettre l'un à l'autre. Donc On voyait bien, tout le monde avait son masque, tout le monde a joué le jeu globalement. Hein. Il y a évidemment quelques personnes qui avaient oublié de le prendre ou des choses comme ça. Bon, mais sinon, c'était vraiment très... c'était clair qu'on ne faisait pas n'importe quoi et qu'on faisait quelque chose qui était adapté à la situation épidémique, mais qui, par contre, était aussi adapté à l'urgence qu'il y avait pour les personnes étrangères et étrangers qui sont victimes de discriminations racistes fortes dans ce pays et qui ont pesé, notamment pendant ce confinement.
Alors, pendant le confinement, de nombreuses associations ont demandé à ce que les CRA, les centres de rétention administrative, soient fermés. Du fait de la fermeture des frontières, il n'y avait plus aucune raison de priver de liberté ces personnes. Certains centres de rétention ont été vidés, mais pas tous. Hein. Il faut expliquer, donc je le rappelle à nos auditeurs auditrices, hein, je le disais en introduction, que donc la surface par personne dans les centres de rétention administrative est de 10 personnes minimum. Il y a peu d'intimité, puisque dans certains centres, il peut y avoir par exemple une vitre en haut de la porte qui permet de surveiller les personnes, qu'il y a une grande promiscuité. Il y a un gros problème aussi qui est pointé par le défenseur des droits, c'est la rétention, puisque c'est le terme exact, hein. La rétention de mineurs, voilà, en France, hein, c'est pointé par le défenseur des droits. À Olivet, donc en 2023, je le disais en introduction de cette émission, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, l'a annoncé fin 2019, il y aura un centre de rétention administrative avec 90 places. Et donc, ça fait partie du vaste plan du gouvernement d'augmenter de 30% la capacité de rétention administrative de ces personnes. Est-ce qu'on pourrait un peu revenir sur ce qu'est la rétention administrative ? C'est quelque chose qui a toujours existé en France, c'est-à-dire que les préfets pouvaient, par décision et avec donc l'aide de la police, hein, je le rappelle, ça ne dépend pas du système carcéral pénitentiaire, mais de la préfecture. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est les sans-papiers qui peuvent être privés de liberté dans des lieux comme cela. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Cette absurdité flagrante, enfin, voilà, qui était de laisser enfermer des personnes dans des centres de rétention administrative. Hein. Il y a eu, alors évidemment, c'est vrai, ils ont été pour partie vidés, pour partie il y a eu des regroupements aussi d'enfermés, hein, que ce soit au Mesnil-Amelot, à Oissel, hein, du côté de Rouen, au CRA de Vincennes. Mais il y avait encore, de toute façon, en gros, entre 150 et 300 personnes qui étaient enfermées, qui sont restées enfermées en CRA. Cet enfermement, donc là, il était d'autant plus absurde parce qu'effectivement, les absurdes des criminels, parce que les frontières étaient fermées, hein, donc il n'y avait pas possibilité d'expulsion. La rétention administrative, c'est notamment ce qui permet d'enfermer des gens avant leur expulsion du territoire français. C'est raciste. Voilà, il faut dire les mots, il faut dire de quoi on parle. On réserve ce sort-là à des personnes parce que ce sont des personnes qui ne sont pas blanches, qui sont noires, qui sont arabes et qu'on enferme là avant d'expulser parce qu'on considère que leur corps, leur vie valent moins que celle de la population blanche, hein, majoritaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un déni de droit incroyable, hein, les centres de rétention administrative. On se permet d'y enfermer des enfants, des bébés, qu'on ne fait pas dans le cadre pénitentiaire. Voilà. Donc il y a bien une inégalité de principe avec ces centres de rétention administrative. Hein. C'est pour ça que nous, le slogan que nous on avait choisi avec le collectif de lutte contre les expulsions et les rétentions qu'on a monté pour contester cette ouverture de CRA à Olivet, c'était ni ici ni ailleurs, ni enfermé ni expulsé. Nous, on ne veut plus de centre de rétention administrative du tout. Pierre par pierre, mur par mur, il faut détruire tous les centres de rétention administrative aujourd'hui. Hein. Ces choses-là sont une honte absolue. T'as rappelé les conditions dans lesquelles sont enfermées les personnes à l'intérieur. Il y a eu des mouvements de protestation collective là dans les centres de rétention administrative pendant le confinement parce qu'il y avait des refus de soins pour des personnes qui présentaient des signes de maladie de coronavirus. Il y avait des personnes qui étaient exposées
à la maladie et à l'épidémie et qu'on les fait dans les CRA à la merci de cette épidémie. Et puis il y a eu des grèves de la faim, il y a eu des refus de réintégrer par exemple les chambres, les cellules des centres de rétention administrative en restant dans la cour, qui ont été réprimés. Par les gardiens, par la force, hein, voilà. Donc, et pourtant, la parole des enfermés a pu sortir de ces CRA. Nous, c'était important de marquer là aujourd'hui, le 30 mai, notre refus continu de ces centres de rétention administrative et de continuer à s'inscrire dans la mobilisation qu'on a commencé à construire, avec notamment la perspective qu'on avait eue, c'était d'organiser une grande manifestation régionale. Tout était prêt, les affiches étaient prêtes pour le 4 avril. C'est partie remise. On va la faire. Ça s'annonçait bien. Il y avait des gens qui annonçaient venir de Blois, de Chartres, de Tours, de Bourges, mais aussi de Paris. Et donc on prévoyait une grande manifestation qui serait une manifestation importante dans les rues d'Orléans pour dire non à ce centre de rétention administrative. On va continuer ce combat-là. Il est essentiel parce que c'est un combat pour l'égalité, en fait. C'est-à-dire que il peut pas y avoir une égalité pour les uns et pour les unes, et puis une sous-égalité, une demi-égalité, une égalité différente pour les autres, parce que c'est des personnes qui sont étrangers, qui sont étrangères, qui n'ont pas la couleur de peau qui ne sont pas blancs et qui ne sont pas blanches, quoi. Voilà, on peut pas accepter ça, c'est pas possible, c'est ça doit être un refus viscéral et on n'aura pas d'égalité parfaite et d'émancipation si on ne résout pas ce traitement raciste qui est fait à des populations de la part des autorités administratives, de la part de l'État français.
D'accord. Alors, il faut peut-être contextualiser tout ça, parce que tes mots sont très forts. Hein. Tu parles de racisme, donc on peut peut-être expliquer à nos auditeurs, auditrices, que la majorité, une grande majorité de ces personnes viennent d'Afrique, donc ont la peau noire, et que parallèlement, les centres de rétention administrative sont assez peu connus du grand public. Hein. C'est vrai qu'ils sont, par exemple, celui d'Olivet sera installé en marge de la métropole orléanaise. Tout cela s'est fait assez discrètement. D'ailleurs, c'est la République du Centre qui en avait parlé en exclusivité, c'était en septembre 2019, ça va faire bientôt un an, que l'immigration est un sujet qui est largement brandi toujours en amont des présidentielles, notamment par des partis d'extrême droite et même d'ailleurs des partis de droite et de gauche. Enfin, disons que tous les partis politiques français doivent se saisir de cette question parce que c'est un sujet d'angoisse pour de nombreux électeurs, électrices. Cette peur de l'étranger, hein, ça date pas d'hier, hein, je le disais tout à l'heure. Et donc il y a un racisme qui ne dit pas son nom dans la mesure où effectivement ce sont souvent des personnes noires qui sont enfermées et la population française ne s'en émeut pas plus que ça malheureusement dans la mesure où cela ne la regarde pas, ne la concerne pas, mais surtout que ces questions sont reprises par des partis politiques qui parlent alors d'invasion, de grand remplacement. Tu maintiens le terme de raciste, hein, je sais pas.
Oui. D'accord. Ah oui, moi je maintiens ce terme-là. Hein. Je pense que c'est important de le dire. Hein. C'est du racisme d'État. J'ai pas de souci avec cette expression-là, du racisme institutionnel, comme on veut. C'est-à-dire que effectivement, on a des politiques publiques, voilà, qui alimentent une discrimination, une stigmatisation et des assignations d'une partie de la population, une partie minoritaire, hein, parce que les fantasmes de grand remplacement, bah précisément, c'est des fantasmes. Je veux dire, les étrangers, les étrangères, c'est pas le groupe majoritaire en France. En fait, c'est pas vrai socialement, voilà. Donc, il n'y a pas de menace d'invasion migratoire. C'est totalement aberrant de penser de cette manière-là. Les gens qui pensent comme ça sont effectivement des personnes qui alimentent la peur, la haine, mais parce que c'est leur projet politique. C'est l'extrême droite. Ce sont des fascistes, effectivement. Donc, les autorités administratives, les autorités d'État français, aujourd'hui, elles contribuent à ça, voilà, elles alimentent aujourd'hui une sorte de fascisation rampante, très présente de la société, mais en fait c'est la même, enfin, je veux dire, aujourd'hui il y a la question des CRA, il y a des centres de rétention administrative. Mais nous, le 30 mai, on posait aussi la question des sans-papiers, oui, globalement, hein, de ces personnes qui sont dans l'illégalité en France, alors qui travaillent, qui payent des impôts, hein, parce que quand ils travaillent, ils payent des impôts, et qui n'ont pas accès aux droits, et qui n'ont pas donc accès à l'égalité. On peut marquer liberté, égalité, fraternité tant qu'on veut sur les frontons de nos mairies, ça reste une fiction aujourd'hui. Voilà, c'est une fiction pour une partie de la population, et en fait, construire cette exclusion de l'égalité, c'est effectivement construire une division flagrante à l'intérieur de la population, et puis favoriser des politiques justement inégalitaires, antisociales, etc. Tout est imbriqué. Mais c'est la même chose aussi dans le traitement des populations, donc descendantes de l'immigration, notamment de l'immigration postcoloniale, dans les quartiers populaires. Voilà, hein, c'est aussi la question des violences policières. Le 30 mai, on n'avait pas de slogan précisément là-dessus, mais moi je pense par exemple à Adama Traoré, je pense à toutes les victimes, les personnes qui sont mortes dans les mains de la police, et on ne peut pas ne pas voir la couleur de peau des gens qui sont morts dans les mains de la police, en fait. Il y a aujourd'hui des révoltes puissantes, très importantes aux États-Unis suite à la mort d'un homme noir qui s'appelle George Floyd. En France, moi j'ai marché à Argenteuil, par exemple, il y a une semaine et demie, pour un jeune Sabri qui est mort, il était en mobylette, et parce qu'il avait il avait voulu échapper à la police, à une voiture de la brigade anticriminalité qui était dans sa rue. Mais pourquoi est-ce que des personnes noires et arabes d'ailleurs cherchent à échapper à la police? Parce qu'on se souvient d'Adama Traoré, parce qu'elles se souviennent de Ziyad et Bouna, parce qu'elles se souviennent de toutes ces personnes qui ont été tuées, en fait, dans les mains de la police. Hein. Nous, dans notre région, c'est des personnes, on parle des Noirs et des Arabes, mais c'est des personnes qui sont même retranchées du groupe considéré comme dominant. On dit des fois des personnes qui sont racisées. Par exemple, c'était le cas d'Angelo Garand, qui était un voyageur, et qui a été tué à Sœur par des gendarmes, hein, dans le Loir-et-Cher, autour de Blois, sa sœur, hein, Aurélie Garand, mène un combat pour la vérité et la justice pour en mémoire de son frère Angelo. Il y a un sociologue, Didier Fassin, qui a écrit un livre, Mort d'un voyageur, qui retrace une enquête sur pourquoi ces morts-là restent impunis. Enfin, je veux dire, pourquoi tu dis la population française ne s'en émeut pas? En fait, elle s'en émeut pas parce que l'autorité publique banalise ces morts-là et les rend normales. C'est-à-dire, les policiers, tous ces crimes-là restent impunis quand même. Voilà, c'est ça qui se passe. Hein. Zineb Redouane à Marseille, c'est resté impuni. Adama Traoré, c'est toujours impuni. Mais la liste est très longue. Hein. Enfin voilà, hein. On pourrait en citer beaucoup des noms, malheureusement d'ailleurs. Hein. Que ce soit Babacar Gaye, que ce soit Lamine Dieng, que ce soit Amine Bentounsi, etc. Enfin, des morts de la police, quand on dit leur nom, quand on voit de qui il s'agit, on voit très bien ce qui se passe et on voit très bien ce qui est en jeu. Et donc, toutes ces questions-là aujourd'hui, elles sont complètement liées les unes aux autres. Et il est fondamental de montrer qu'il y a à la population qu'il y a un enjeu d'égalité et en fait dénoncer ce que les autorités publiques laissent faire. Donc nous, notre but, c'est pas de construire un petit entre-soi militant. Hein. C'est pour ça que si on a fait cette chaîne humaine des solidarités, pour nous, c'était important de faire une manifestation publique dehors. C'est parce que nous, on veut s'adresser à la population, on veut effectivement faire ce travail politique au sens noble du terme, hein, de comment est-ce qu'on s'intéresse ensemble à la vie de la cité pour faire partager ce qui nous est inacceptable et puis faire prendre conscience du traitement inégalitaire. T'avais raison, hein, les CRA, il y a plein de gens qui ne savent même pas à quoi ça ressemble, et de toute façon, effectivement, ils sont construits souvent en bordure d'agglomération, dans des lieux qu'on voit pas trop, Ils sont rarement indiqués sur. Il y a même rarement des panneaux indicateurs qui disent où ils sont. Mmh. Il n'y a pas d'entrée avec marqué en gros centre de rétention administrative. Il y a des barbelés. Voilà, c'est des lieux clos, c'est des lieux qu'on cache un petit peu. Voilà, mais nous, notre but, c'est de les dévoiler, de montrer qu'est-ce qu'est la réalité aujourd'hui, matérielle, concrète, physique, du racisme en France, dans toutes ses dimensions. Et les CRA, le sort réservé aux sans-papiers, et notamment nous, en plus, aux jeunes isolés étrangers, dans notre département, sur lequel il y a une mobilisation forte avec le Covid, et la question des violences policières, sont évidemment complètement liées et imbriquées, quoi.
Alors j'imagine que tu te réjouis de la mobilisation parisienne quand même, plusieurs milliers de personnes selon le Parisien. Il y a de la solidarité en France et donc des personnes, j'allais dire, françaises, voilà, à la peau blanche, qui soutiennent justement nos frères étrangers.
Oui, il y a de la solidarité. Alors à la manifestation parisienne, c'était beaucoup aussi une action des sans-papiers. Elles et eux-mêmes, ils étaient très très nombreux à s'être mobilisés par eux-mêmes, par elles-mêmes. Après, oui, bien évidemment, c'est fondamental, c'est très important que des organisations aussi expriment leur soutien, et des personnes qui ne sont pas les premiers concernés, mais qui sont d'une certaine manière les deuxièmes, les troisièmes concernés, parce que effectivement, si on ne veut pas seulement s'arrêter à témoigner de l'injustice, c'est très important, c'est fondamental de témoigner de l'injustice, mais on a besoin aussi. Par ailleurs, je suis syndicaliste, je crois au rapport de force, et je pense que vis-à-vis des autorités de l'État, on a besoin de construire aussi ce rapport de force, et vis-à-vis de la population, si on veut en fait faire bouger les choses, on a besoin d'être de s'adresser à l'ensemble de la population dans le but de faire bouger bouger les lignes, de faire bouger les choses, et ça effectivement on le fera avec un mouvement de soutien fort, large et puissant. C'est possible. C'est possible, on peut y arriver, c'est pas peine perdue, mais par contre il faut simplement savoir de quoi on parle et parler des choses avec à leur juste mesure, voilà. Là aujourd'hui je pense vraiment qu'en plus avec le confinement la question des CRA est un peu plus ressortie que d'habitude, parce que l'absurdité de la chose était flagrante, et c'est ce qui explique que les premières mobilisations d'ailleurs ça a été celle de ce 30 mai, mais dès le 11 mai, premier jour du déconfinement, à Lille-Saint-Denis, il y avait justement une chaîne humaine aussi des solidarités qui était organisée contre les violences policières cette fois. C'était important, hein. À Lille-Saint-Denis, je rappelle, c'est cet endroit où il y a une vidéo qui a été tournée, où on voit des policiers rire de quelqu'un qu'ils ont poursuivi, qui était tombé à la Seine, et ils disent un bico ça nage pas, voilà. Donc des paroles d'un racisme crasse qui évoquent les morts du 17 octobre 61, qui sont des morts algériens tués par la police française sous les ordres d'un préfet qui était alors à l'époque Maurice Papon, et qui était dont grand nombre ont été noyés dans la Seine, chez manifestants algériens. Donc pour ces populations, pour les personnes qui sont victimes des discriminations racistes, clairement la crise du coronavirus, elle a été plus grave en vrai que pour le reste de la population, parce qu'ils l'ont vécu aussi en première ligne, dans les quartiers populaires notamment. C'était aussi beaucoup de personnes qui habitent dans les quartiers populaires, c'est les gens qu'on continue à faire tourner la société, c'est les gens qui étaient boueurs, qui travaillaient dans les hôpitaux, qui faisaient tourner les transports en commun, etc. C'était eux qui étaient en première ligne, voilà. Et donc il y a vraiment un enjeu là à construire des mobilisations très très fortes autour de ces questions, parce que il faut absolument battre en brèche la peur, la haine et le racisme qui ne permettent pas ensuite de construire des projets de société qui soient basés sur l'égalité, la solidarité et l'émancipation. C'est aussi ça hein, derrière notre enjeu fondamental.
Alors, tu as évoqué les violences policières. Amnesty International, d'ailleurs, a fait un rapport très documenté hein, qui est disponible sur leur site concernant les violences policières durant le confinement, en partant de 15 cas qu'ils ont examinés à la loupe. Donc, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Alors, il y a eu malheureusement une polémique à cause de cette Camila Jordana, que je ne connaissais pas, hein, je t'avoue. Mais voilà, une chanteuse qui, sur un plateau... déclare une polémique en disant des évidences, hein, malheureusement, et puis ben, on voit le ton paternaliste de notre ministre qui rappelle à l'ordre tout de suite cette femme justement qui donnait son avis comme toute citoyenne. Alors je mettrai des liens là sur l'article que je vais faire pour le Bondy Blog Centre. Je voudrais en revenir un petit peu à la situation française et faire le parallèle avec la situation américaine. Il y a eu la dénonciation d'un crime raciste, une forte mobilisation de la communauté américaine dans son ensemble, hein, qui est donc très mélangée avec des personnes originaires d'Amérique du Sud, des personnes d'origine asiatique, des personnes originaires d'Europe et puis d'Afrique évidemment en raison du passé esclavagiste des États-Unis. Et on voit que ça dépasse un petit peu le cadre des violences policières. On a l'impression, dans la mesure où ça traîne en longueur. Est-ce que tu verrais un parallèle français, justement, entre une dénonciation des violences policières, entre une dénonciation du sort fait aux étrangers et toute cette grogne sociale latente qui va exploser, qui risque d'exploser dans les mois qui viennent ?
Ben oui, bien sûr. Enfin, il y a évidemment un lien. Hein. En fait, on ne peut pas... les personnes qui ne sont pas blanches ne sont pas à l'écart de la vie et de la société.
Ben,
je veux dire, c'est souvent on dit il y a la question du racisme et puis par exemple on dirait il y aurait la question sociale, mais en fait non, c'est la même chose. On parle de la même chose. Le racisme c'est un traitement d'une partie des classes populaires de ce pays-là. C'est quelque chose qui leur rend la vie plus dure. Qui leur rend la vie plus injuste et qui permet aussi hein, d'assigner une partie de la population à certaines tâches. Je veux dire, l'assignation raciale à une catégorie de métier, elle est manifeste.
Alors bien sûr, je pense des femmes de ménage.
Si on prend les femmes de ménage,
de François Ruffin,
dans les hôtels,
oui.
Moi, on voit les grèves, par exemple, des femmes de ménage, c'est essentiellement des femmes noires. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas que, bien évidemment, pas que, jamais pas que, mais essentiellement et majoritairement, enfin je veux dire, si on prend statistiquement par rapport à la proportion dans la population française, bah là, il n'y a pas photo, on va dire. Voilà. Hein, alors on n'a pas le droit, nous, en France, de faire ce qui est fait dans d'autres pays, notamment aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est-à-dire on appelle ça, c'est pas très joli, mais on dit c'est des statistiques ethniques. Oui, c'est-à-dire une manière de mesurer les inégalités, les discriminations raciales. Alors comme on n'a pas le droit de le faire en France, c'est un peu comme l'ardoise magique, comme on était gosse, en fait. Oui. Ça efface la question du racisme, de la manière de voir la réalité sociale qui nous entoure. Mais c'est trop facile, ça. Et c'est aussi un présupposé de principe. C'est ce que disait, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale. Bon, moi, je suis dans un syndicat, je suis d'éducation, qui a fait, par exemple, des stages sur la question du racisme. Et on avait fait quelque chose qui avait scandalisé à l'époque le ministre de l'Éducation nationale. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait dans le stage, hein, qui était sur 2 jours, deux ateliers d'une heure qui étaient en ce qu'on appelle non-mixité raciale, c'est-à-dire c'est des gens qui sont noirs, arabes, asiatiques, et qui veulent se réunir ensemble, ils peuvent effectivement, pour parler des questions de racisme, mais seuls, sans les blancs qui ne subissent pas, à ma connaissance, le racisme directement. Enfin, voilà. C'est pas à ma connaissance, ça n'existe pas, le racisme anti-blanc, par exemple.
Il n'y a qu'un racisme, voilà. Je ne sais pas si après il faut parler de racisme anti-blanc, anti-jaune ou anti-noir, il n'y a qu'un racisme, après, en fonction du lieu, il se décline. Il y a des racistes africains, il n'y a aucun doute par rapport à là-dessus.
Ouais, bien sûr, mais après il y a des choses qui font, par contre, qui font système, hein. C'est-à-dire que, de faire des insultes ou voilà, ok, c'est une chose, mais par contre, voir ce qu'on voit, par, enfin, qui, là, quand on parlait par exemple des morts dans les mains de la police, y a des phénomènes structurels. Quand on parle de la structure, par exemple, du travail, etc., c'est à la fois social, parce que c'est des catégories qui sont reléguées dans certaines catégories d'emploi, etc. Enfin, je veux dire, par exemple, la structure sociale du travail en France, ce qu'on a appelé la main-d'œuvre immigrée, ça a bien été ça. C'était, on était allé chercher, notamment après la Seconde Guerre mondiale, des gens qu'on a mis dans l'industrie automobile, dans la reconstruction, entre guillemets, de l'appareil industriel, et qu'on allait chercher au Maghreb, en Afrique, pour venir travailler dans les usines en France.
Oui, Orléans-La Source, hein, tout de suite, on pense, enfin, localement, le quartier d'Orléans-La Source.
Ouais, tout à fait, voilà. Et donc, c'est cet héritage-là et qui est un héritage social. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une sorte... Enfin, voilà, en France, il y a un peu cette logique-là de... comme il y a marqué, justement, comme je disais tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité sur nos frontons de mairie, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Il suffit pas de dire que on est égaux devant la loi pour que ce soit vrai, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il peut y avoir marqué dans des textes de loi ou quoi ou qu'est-ce, où on peut avoir toutes les déclarations des droits de l'homme et du citoyen qu'on veut, il faut les mesurer aux faits et à ce qui se passe en vrai. Parce que après, sinon, c'est trop facile. Enfin, je veux dire, aux États-Unis aussi, officiellement, le racisme, c'est pas bien et on n'a pas le droit. Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe pour de vrai, en
fait, culturellement. Donc, je t'ai interrompu tout à l'heure. Excuse-moi. Donc, je voulais juste préciser au sein de la race humaine. Alors, par exemple, si on prend les personnes de couleur blanche, elles ne vont pas se diviser elles-mêmes en race. À la rigueur, même s'il peut y avoir après d'autres conflits. Voilà. Oui. Donc, le racisme est bien une histoire de couleur de peau qui est autre
c'est
que la nôtre.
Construction sociale.
Voilà.
Mais
et tu, voilà.
Sociale.
Alors, je voulais, attends que tu poursuives sur ce que tu me disais tout à l'heure, concernant justement, donc, ces deux jours de stage dans l'éducation nationale, où il vous avait été reproché, donc, de, favoriser une sorte de regroupement ethnique, c'est ça?
Ouais, c'est ça, tout à fait. Et Jean-Michel Blanquer avait dit, c'est pas vrai, il n'y a pas de racisme à l'école, puisque l'école accueille tous les enfants de la République à égalité. Et il dit la même chose pour les fonctionnaires, c'est pas vrai. Mais en fait, le problème, c'est que je vois pas pourquoi est-ce que le racisme qui existe dans la société, il n'existerait pas dans l'école. Mmh. L'école, c'est pas une sorte d'îlot à part. C'est pas vrai, en fait. C'est traversé par les inégalités sociales, par les discriminations raciales. Je veux dire, moi, je travaille en lycée professionnel à Fleury-les-Aubrais. Et je pense qu'on n'a pas le droit de le faire. Hein, mais si on faisait des statistiques ethniques, on n'aurait pas, on aurait des résultats qui seraient quand même différents en termes de population qui suit des études courtes avec des salaires moins importants à la clé que si on prend les élèves du lycée Potier ou du lycée Jean Zay, par exemple, statistiquement. Voilà, c'est ça, en fait, mesurer les discriminations raciales. C'est ce qui a été fait aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, là, pendant la crise du Covid, alors qu'on n'a pas tout à fait passé, elle est encore en cours, on ne sait pas d'ailleurs comment elle va continuer, mais ils ont pu mesurer, par exemple, les différences de taux de mortalité entre noirs et blancs. En fait, quand on était noir, on mourait plus du Covid. Et en fait, y compris à situation sociale égale, parce que souvent on dit oui, mais c'est parce que ces populations noires et arabes sont plus sont des populations en gros plus pauvres. Alors d'abord, c'est en soi un problème, parce que ça veut dire quelque chose quand même des populations un des éléments de discrimination, c'est la couleur de peau et qu'on voit qu'elles sont plus pauvres, faut quand même commencer à se poser des questions d'abord. Hein, c'est aussi une chose. Et puis ensuite, il y a quand même une partie irréductible qui ne s'expliquait pas autrement que par effectivement du racisme, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que, et c'est là où on tombe sur la question de la valeur qui est accordée à des vies. Mais c'est ancien, enfin, je veux dire, Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, le disait déjà, c'est-à-dire c'est la manière dont c'est construit, et depuis des centaines d'années, en vrai, le fait que il y avait une population, et en l'occurrence une population blanche, qui avait des droits supérieurs sur une autre partie de l'humanité. Enfin, c'est ça s'est pas effacé
Mais non, bien sûr.
Par un coup de baguette magique. Et non, bien sûr.
Alors évidemment, alors je pense à cette affiche justement pendant pendant la crise du coronavirus, dans les dom-toms sur la distanciation physique. Donc ça équivaut à 5 ananas où il faut respecter cette distance. Alors puisque tu as cité Aimé Césaire, alors j'ai envie de revenir sur le sentiment d'humiliation que subissent toutes ces populations et justement le problème que ça leur pose pour s'exprimer et revendiquer leurs droits, parce qu'en fait elles craignent justement la répression policière et s'exprimer. Alors c'est un autre problème d'ailleurs qui concerne les centres de rétention, hein, puisque apparemment les personnes qui y vont n'ont pas le droit de s'exprimer sur les conditions de détention. Ça c'est encore un autre problème que je développerai sur l'article. Mais voilà, donc une solidarité nécessaire en raison du fait, j'allais dire, du mutisme et du silence des principaux concernés qui ne veulent pas trop faire de vagues et de bruit parce qu'ils sont en attente d'un jugement pour certains. Je pense à Ibrahim Tchernoba, par exemple. Je pense aussi à toutes ces personnes qui ont été défendues par notre député François Ruffin concernant donc l'exploitation de femmes de ménage dans des hôtels. Des personnes qui sont assez silencieuses, qui n'osent pas faire de vagues parce que elles se sentent déjà humiliées et qu'elles ne veulent pas en rajouter. Enfin, il y a un problème de ce côté-là, une solidarité en fait nécessaire, j'allais dire, des personnes qui ne sont pas concernées, comme le reste de la population française, parce que ces personnes font partie de la population française.
Ouais, tout à fait. Alors, de toute façon, le principe de la domination, c'est qu'il y a des dominés et des dominants. Et effectivement, un des mécanismes de la domination, ça repose sur l'asservissement, sur le silence qui est imposé, y compris par la force, s'il le faut, à des dominés. Hein. Donc là, oui, on sait que c'est dur c'est pas simple, c'est pas évident, c'est pas facile de se révolter face à une situation d'injustice. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, il faut qu'on construise un mouvement de soutien des deuxièmes, des troisièmes concernés, parce que moi je pense que le racisme est quelque chose qui nous concerne. En l'occurrence, moi je suis blanc par exemple, en quoi ça me concerne? Ça me concerne parce que je suis justement quelqu'un qui veut construire une société d'égalité, et je ne peux pas construire une société d'égalité avec ce problème-là qui persiste en fait. C'est pas possible, c'est pas compatible, et que c'est aussi quelque chose qui est exploité par des gens qui veulent construire des sociétés d'inégalité pour le coup et d'injustice plus profonde qu'elles ne le sont déjà. Donc effectivement des gens qui ont des projets fascistes en fait, en réalité. On voit ce que donne l'arrivée de Trump ou de Bolsonaro, de Trump aux États-Unis ou de Bolsonaro au Brésil, en termes d'inégalités qui conduisent quand même à la mort de personnes, et qui attaquent l'ensemble des classes populaires. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème, la question du racisme, qui touche en réalité l'ensemble des classes populaires. Après, donc, sur la question du silence, d'abord, il y a quand même des choses qui se passent,
dans
les quartiers populaires, que ce soit, par exemple, là, la marche du 30 novembre, la marche des solidarités, il y avait eu une conférence de presse, c'est des camarades sans papier eux-mêmes qui ont pris la parole, qui s'organisent, qui ont leur collectif. Nous, par exemple, à Orléans, le collectif des jeunes isolés étrangers, le COJI, fonctionne sur la base aussi de réunions avec les jeunes eux-mêmes. Et il y a une partie des initiatives qu'on prend. Par exemple, l'été dernier, on avait fait plusieurs manifestations d'affilée autour de la question du droit au logement d'une partie des jeunes qui risquaient d'être expulsés, qui étaient les majeurs. C'est eux qui avaient trouvé l'idée de se balader avec des tentes, etc. Enfin, c'est eux qui ont décidé, il faut faire des manifestations. Nous, c'est important aussi que ce soit... On se met d'abord... Enfin, c'est pas les soutiens qui vont expliquer comment faire aux principaux concernés. C'est très important qu'il y ait aussi une construction propre, autonome, de l'action par celles et ceux qui sont directement concernés. Dans les quartiers populaires, c'est le cas. Hein. Par exemple, on parlait d'Adama Traoré. Bah, le collectif Vérité et Justice pour Adama, bon, bien évidemment, il y a sa sœur, Assa, qui est très présente. Mais il y a aussi toute une série de militants, de gens de Beaumont-sur-Oise hein, qui construisent ce collectif. Hein. Mmh. C'est pas que Assa Traoré toute seule. Hein. Il y a plein de monde derrière qui sont les voisins, les amis, la famille, des militants antiracistes, donc quelqu'un comme Youssef Brakni, etc., qui travaillent avec main dans la main avec qui sont membres du comité Adama et qui font cette mobilisation et qui du coup sont les premiers concernés, quoi. Et de la même façon, par exemple, il y a un autre événement dont on n'a pas du tout parlé là, mais qui a été le 10 novembre dernier. Il y a eu une grande marche contre l'islamophobie. Par exemple à Paris, bah là aussi hein, c'était aussi un élément important, une affirmation de dignité en fait de ces personnes, les musulmans, les musulmanes ou celles et ceux qu'on assigne comme tels, dont on dit qu'ils sont musulmans et musulmanes, parce que bah ils sont arabes par exemple et donc ils sont assignés à être musulmans et musulmanes, on leur demande même pas, mais on considère que les musulmans et musulmanes, et cette manifestation contre l'islamophobie, bah c'était important qu'elle soit portée par des personnes qui étaient effectivement bah les premières victimes de ce racisme spécifique qui est l'islamophobie et qui est un racisme qui tient un rôle assez important aujourd'hui dans tout le monde occidental contemporain hein, voilà hein, de Trump jusqu'au massacre de Christchurch voilà il y a quelque chose qui traverse l'ensemble du champ occidental qui est cette islamophobie et qui construit un racisme transnational on va dire à l'égard d'une catégorie de la population quoi.
D'accord. Et donc pour terminer, une société française, comment dire, qui ferme les yeux, qui un peu naïve ou alors faussement naïve, je ne comprends pas trop. Alors par rapport à ce que tu me disais sur notre ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, donc comme quoi il n'y aurait pas de racisme dans l'Éducation nationale, je repense aux propos de Monsieur Castaner qui a récemment expliqué qu'il n'y avait pas de racisme dans la police, alors qu'il avait dit le contraire il y a quelques mois. Ne pas reconnaître que le racisme puisse être présent au sein de nos institutions, alors qu'il est présent dans toute la société, c'est un peu se voiler la face, c'est aussi s'empêcher de prendre le taureau par les cornes, de se saisir du problème et d'y remédier. Ouais, ça devient en fait, ça devient un racisme institutionnel, c'est peut-être ça qui est un peu gênant.
C'est ça. Bah, moi, c'est pour ça que je parle de racisme d'État ou de racisme institutionnel. Hein. C'est-à-dire que c'est une manière bien confortable d'éviter la question, bah, parce que en fait, c'est une manière de perpétuer des dominations qui sont bien concrètes et qui profitent à certains, c'est-à-dire qui permettent la gestion des quartiers populaires telle qu'elle est faite de manière raciste, ça permet d'éviter de poser des questions sociales dans ces quartiers populaires et d'y répondre. Hein, si on dit, regardez, c'est ça, hein, le traitement médiatique, hein, c'est systématiquement quand il y a un jeune homme, souvent c'est des jeunes hommes, hein, c'est pour ça que des jeunes hommes qui est mort dans les mains de la police, on va tout de suite dire, ah mais il roulait sans casque, et alors en fait, quand on roule sans casque, c'est la peine de mort. Enfin, je veux dire, c'est ça la règle, le droit dans notre pays. Donc il y a des trucs qui permettent effectivement de ne pas traiter toute une série de questions. C'est le rôle, c'est la fonction effectivement du racisme. Et puis, ce que je disais sur les questions d'assignation, hein, c'est aussi c'est bien pratique d'avoir une partie de la population qu'on peut maintenir dans des bas salaires, dans des métiers et des carrières qui sont pas les mêmes que celles de la majorité de la population, etc. quoi. Donc ça fait partie du racisme. Et puis l'autre enjeu, c'est aussi la peur et la haine que ça construit, une société de haine et de peur. C'est aussi une société divisée et qui favorise des solutions autoritaires en fait de traitement et de gestion, cette fois de l'ensemble de la population. Moi, je pense vraiment que c'est connecté. Hein. Je pense vraiment que, par exemple, le traitement violent des manifestations depuis plusieurs années, des manifestations du mouvement social, hein. Enfin voilà, que ce soit celle lors du mouvement des retraites en 2016-2017, ou le traitement violent de la part de la police du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, il est étroitement lié à ce qui a été expérimenté comme traitement policier des populations dans les quartiers populaires et du traitement policier aussi des populations sans papier. Voilà. Mmh. Je pense vraiment que c'est des choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ça construit en réalité un État autoritaire. Voilà. Mmh. Et on est face à un État autoritaire qui est assis sur justement ces discriminations qui, pour construire une domination, elle se construit avec des discriminations. Mmh.
Alors, il me semble, Théo, que tu étais en filière littéraire sur Orléans et que tu aimes lire. Et je pense que nos gouvernants, nos hommes politiques également. Alors, il y a un vieux livre, hein, forcément, qui est disponible en PDF gratuitement sur Internet. Hein, Le Prince de Machiavel. Le tyran doit être craint. C'est tout simple, en fait, parce que si le tyran n'est pas craint, le peuple se révolte. Et c'est pour ça qu'il faut une domination de la peur. C'est assez simple, hein, je veux dire, ça date de quelques siècles, ça marche encore. Voilà, et il faut pas avoir peur justement de revendiquer ses droits. Je pourrais peut-être rappeler aussi que c'est par la lutte que les droits civiques ont été acquis, par exemple aux États-Unis, hein, puisque il se passe pas mal de choses là-bas. C'est pareil en France aussi. Je pense à nos droits sociaux. Voilà, c'est dans la lutte que le peuple peut accéder à ses droits qui ne lui seront pas forcément donnés par l'État. Alors il ne s'agit pas de détruire l'État. On est dans une émission citoyenne, bien évidemment. Par contre, il est toujours bon de rappeler justement les initiatives citoyennes de mobilisation pour plus d'égalité, de liberté et de fraternité. Voilà, parce que ces choses-là, alors effectivement, elles sont peut-être gravées sur les frontons des mairies, c'est de la pierre, c'est immobile, ça ne bouge pas, alors que nous, on est des humains en mouvement, nous sommes des humains en mouvement. Nous, de notre côté, au Bondy Bloc Centre, on se tâche de relayer toutes les informations citoyennes, et c'était la raison de mon appel.
D'accord.
Un grand merci, Théo. Mais bien sûr, je t'en prie. Vas-y.
Puisque tu parles de livres,
allez. Un peu de lecture.
Et donc, je redirais que moi, je conseille à tout le monde de lire ce tout petit classique, qui est un texte très court, mais qui est très percutant, qui est Le Discours sur le colonialisme de Denis Césaire. C'est une lecture qu'il faut refaire régulièrement, parce que c'est une charge très importante et qui dit beaucoup des mécanismes de ce qu'a été le colonialisme. Et là, justement, un livre qui est ressorti il n'y a pas longtemps et qui est en fait une réédition, qui résonne beaucoup avec l'actualité et que je conseille aux lecteurs et lectrices du Bondy Blog, c'est Meurtre à Atlanta de James Baldwin, qui vient d'être réédité chez Stock. Hein, c'est comment justement la mort de jeunes noirs n'est pas considérée de la même façon que celle de blancs. Voilà. Meurtre à Atlanta de James Baldwin.
C'est noté. Merci pour ces prescriptions littéraires et merci pour tes nombreux témoignages.
Allez.
Si peut-être une annonce la prochaine manifestation.
Alors, on n'a pas encore de date. En tout cas, c'est sûr qu'on a été très content d'avoir réussi la première et que on prendra des initiatives dans les semaines et les mois à venir et que notamment on va cette manifestation du 4 avril. Qu'on n'a pas pu faire contre le CRA, on va la faire. Il ne faut pas croire que c'est annulé. On va faire cette manifestation, on va lui donner une ampleur régionale et peut-être même nationale, avec la venue de personnes justement qui dénoncent le racisme. Et donc on fera ça. Je pense maintenant le temps de se réorganiser et puis bien évidemment. En fonction de ce que nous permet la situation sanitaire et la progression de l'épidémie.
Merci Théo.
Allez.
Allez, bonne journée, au revoir, à bientôt.
Salut.
Salut. Voilà, cette émission est terminée. Elle a été riche en références que vous retrouverez sur le site www.bondybloccentre.fr. Au revoir à toutes et à tous, à bientôt.
Bondy Bloc Café.
www.bondybloccentre.fr.